Vous écoutez On lit pour vous.
Une famille qui doit quitter le pays se dit victime d'une supercherie en immigration. Un reportage de Sheena Look de CBC, paru le 1er août 2024 sur Ici Terre-Neuve et Labrador. Lola Akinlade était tout sourire quand elle a reçu son diplôme en service social du Collège communautaire de la Nouvelle-Écosse, NSCC, en 2019. Mais elle ressentait de l'anxiété. Le bonheur était peu profond, dit-elle au cours d'une entrevue accordée récemment. L'étudiante originaire du Nigeria avait reçu quelques semaines auparavant une lettre d'immigration, réfugiés et citoyenneté Canada qui lui demandait des explications parce que l'un des documents qu'elle avait utilisé pour venir au Canada en 2016 était faux. Le ministère soupçonne qu'elle savait que c'était un document contrefait. Madame Akinlade assure qu'elle ne savait pas que c'était un faux document. Elle était bouleversée. C'était le début de mes difficultés. Lola Akinlade souhaite que le ministère révise son cas. Elle dit être victime d'un agent voyou qui lui a fourni la fausse lettre d'inscription à une université canadienne. Un consultant propose ses services. Lola Akinlade, qui était employée d'une entreprise pharmaceutique à Lagos, envisageait d'étudier au Canada depuis 2015. Elle dit avoir rencontré un homme qui s'est présenté comme un consultant en immigration et qui a proposé de la guider dans le processus pour étudier au Canada. Elle dit lui avoir remis divers documents, dont son passeport et de l'argent. Quelques mois plus tard, il lui a remis un permis d'études au Canada, un billet d'avion et une lettre d'inscription à l'université de Regina. Madame Akinlade est arrivée au Canada en décembre 2016. Toutefois, lors d'un arrêt en cours de route chez des connaissances à Winnipeg, elle a reçu un appel de son consultant en immigration l'informant qu'il n'y avait plus de place à l'université de Regina et qu'elle devait s'inscrire sur une liste d'attente. « J'ai dit que mon but était d'étudier. Je ne voulais pas être sur une liste d'attente », affirme Lola Akinlade. Elle a ensuite cherché à s'inscrire ailleurs. Le Collège communautaire de la Nouvelle-Écosse l'a accepté pour la rentrée de septembre 2017. Elle a communiqué avec l'Université de Regina pour faire une vérification des faits après avoir reçu la lettre du ministère. C'est à ce moment que j'ai appris la vérité. Le consultant renvoie la balle à une agence introuvable. CBC a communiqué par message texte avec Babatunde Iziak Adekoke, le consultant au Nigérien qui, selon Madame Akinlade, l'a aidé durant le processus qui l'a amené à étudier au Canada. Monsieur Adekoke reconnaît qu'il a remis à Madame Akinlade la lettre d'inscription à l'Université de Regina. Il soutient que c'est une agence qui l'avait embauchée, Success Academy Education Consult, qui lui avait remis la lettre. Selon lui, cette agence a déménagé et il ne sait pas à quel endroit elle se trouve maintenant. Il dit qu'il n'a pas ses coordonnées, qu'il ne fait plus affaire avec elle depuis 2018 et qu'il n'aide plus d'étudiants à obtenir un permis d'études. Babatunde Iziak Adekoke se dit étonné d'apprendre que la lettre était fausse. Il nie avoir suggéré à Madame Akinlade de s'inscrire sur une liste d'attente à l'université de Regina. CBC n'a pas réussi à trouver une entreprise qui correspond à la description qu'il a fournie. Les propriétaires d'autres entreprises au Nigeria, qui portent un nom similaire, disent ne pas être au courant de la lettre en question. Aucun statut d'immigrante. Lola Akinlade a perdu son permis d'études au Canada à cause de la fausse lettre. Le Canada a refusé sa demande de permis de travail et de résidence temporaire. Son mari, Samson Akinlade, et leur fils de 8 ans né au Nigeria, David, vivent avec elle en Nouvelle-Écosse depuis 2018. Ils ont perdu leur statut de résident permanent. Leur autre fils, né au Canada en 2021, est citoyen canadien, mais il n'a pas droit à l'assurance maladie à cause du statut de ses parents. Les autorités canadiennes ont informé les parents qu'ils devaient volontairement quitter le pays ainsi que leur fils aîné. Ils ne peuvent ni travailler, ni étudier. Nous vivons grâce à nos économies et je ne sais pas combien de temps nous pourrons survivre ainsi. C'est très, très difficile, affirme Lola Kinlade. Elle ajoute que sa famille a vendu sa maison au Nigeria pour financer ses études au Canada. Des milliers de fausses lettres d'inscription. D'autres étudiants étrangers au Canada ont vraisemblablement connu les mêmes difficultés. Le ministère, qui a vérifié 361 718 lettres d'inscription depuis décembre 2023, a découvert que 9175 d'entre elles sont fausses. La famille Akinlade prépare une demande afin de rester au Canada pour des raisons humanitaires, selon son avocate Amana Sandu. Il arrive couramment que des agents voyous donnent de faux renseignements aux immigrants, selon elle. Beaucoup de gens se retrouvent dans cette situation délicate où ils font confiance à un agent et où cet agent n'agit pas comme il est censé le faire, explique Amana Sandu. Les établissements canadiens se préoccupent de la situation, selon le responsable des relations internationales de l'organisme Université Canada, Graham Barber. Il dit avoir vu en 10 ans une poignée d'étudiants qui croyaient être inscrits à un campus alors que ce n'était pas le cas. Pour toute université dont le logo est utilisé sans son autorisation, dont la marque et la réputation sont utilisées à son insu, c'est incroyablement inquiétant, dit-il. Les fausses lettres peuvent constituer un indice de fraude selon Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Le ministère dit se concentrer sur la recherche des malfaiteurs et non sur la pénalisation des victimes. Quant à ces soupçons, suivant lesquels Mme Akinlade savait que la lettre d'inscription était fausse, le ministère explique que cela repose sur un équilibre de probabilité. Les demandeurs sont responsables de tout renseignement joint à leur demande, souligne le ministère, en ajoutant qu'il a donné l'occasion à Mme Akinlade de s'expliquer. Lola Akinlande dit croire que le ministère comprendra qu'elle n'était pas une complice dans la production de la fausse lettre s'il révise son cas. Elle ajoute que cette expérience est traumatisante pour sa famille. C'était une famille qui doit quitter le pays se dit victime d'une supercherie en immigration, un reportage de Shayna Look de CBC paru le 1er août 2024 sur Ici Terre-Neuve et Labrador.
L'ONU lance un plan pour renforcer l'autonomisation des femmes. Un texte de la rédaction paru le 9 mars 2024 dans Loop Haïti. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a lancé le vendredi 8 mars 2024, à l'occasion de la Journée internationale des femmes, un plan sous le thème « Investir dans les femmes ». Accélérer le progrès. Guterres a soutenu que son nouveau plan d'accélération de l'égalité des sexes à l'échelle du système des Nations Unies s'engage à placer les femmes et les filles au centre de notre travail dans tous les domaines. L'égalité est en retard. Pour y parvenir, nous devons joindre l'acte à la parole, a déclaré le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, ajoutant « Nous devons investir dans les femmes et les filles, donner un coup d'accélérateur au progrès et construire un monde meilleur pour nous tous. » Pour ce faire, le numéro des Nations Unies a fait savoir que l'institution qu'il dirige aidera les gouvernements du monde entier à concevoir et à mettre en œuvre des politiques, des budgets et des investissements qui répondent aux besoins des femmes et des filles. Ce nouveau projet répond aux défis constants auxquels font face les femmes à travers le monde et intervient dans le contexte d'une réaction globale contre les droits des femmes qui menace et parfois annule les progrès réalisés dans les pays en développement comme dans les pays développés, a déclaré Guterres. Le SG des Nations Unies a pris, pour exemple, les restrictions imposées par l'Afghanistan en matière de scolarisation et de travail à l'extérieur du foyer, ou la Gambie, qui envisage de légaliser la pratique néfaste des mutilations génitales féminines. Les crises mondiales auxquelles nous sommes confrontés frappent plus durement les femmes et les filles, qu'il s'agisse de la pauvreté et de la faim, des catastrophes climatiques, de la guerre et de la terreur, a souligné Guterres. Concernant des rapports sur l'impact horrible des conflits qui touchent les femmes et les filles dans le monde entier en 2023, qu'il s'agisse de témoignages de viols et de traite au Soudan ou de rapports récents sur les violences sexuelles commises dans le cadre du conflit israélo-palestinien en cours, le secrétaire général de l'ONU a mis en lumière un rapport de sa représentante spéciale pour la violence sexuelle dans les conflits, Pramila Patten, sur la violence sexuelle et la torture sexualisée lors des attaques terroristes du Hamas en Israël, ainsi que des rapports de violence sexuelle contre des détenus palestiniens. Durant ce conflit, les services de maternité s'effondrent dans la bande de Gaza, déchirée par la guerre, où les femmes et les enfants constituent la majorité des plus de 100 000 victimes. Guterres veut lutter contre les préjugés. Guterres croit que des programmes ciblés et des quotas peuvent être nécessaires pour lutter contre les préjugés et démanteler les obstacles à l'égalité. De ce fait, il appelle les États membres lors du prochain sommet de l'avenir, qui aura lieu en septembre 2024, à soutenir les propositions des indicateurs qui vont au-delà du produit intérieur brut, PIB. Le PIB ne tient pas compte du travail domestique effectué par des milliards de femmes, alors que des indicateurs complémentaires fournissent une image plus complète et plus équilibrée, a-t-il expliqué, ajoutant qu'il est essentiel de remédier aux préjugés sexistes en matière de pauvreté. Trois domaines d'action prioritaires identifiés par Guterres. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, dit identifier trois domaines d'action prioritaires pour faire des investissements en faveur des femmes et des filles une réalité. Augmenter d'urgence les financements abordables et à long terme pour le développement durable. Exiger des gouvernements qu'ils donnent la priorité à l'égalité pour les femmes et les filles par le biais d'efforts tels que son plan récemment lancé. Augmenter le nombre de femmes occupant des postes de direction, ce qui peut aider à stimuler les investissements dans des politiques et des programmes qui répondent aux besoins des femmes et des filles. L'égalité ne sera atteinte que dans 300 ans. Au rythme actuel, l'égalité juridique totale pour les femmes ne sera pas atteinte avant 300 ans, tout comme la fin du mariage des enfants, a déclaré le secrétaire général de l'ONU. Selon lui, d'ici à 2030, plus de 340 millions de femmes et de filles vivront encore dans l'extrême pauvreté, soit 18 millions de plus que les hommes et les garçons, si aucune mesure n'est prise dès maintenant. C'est une insulte aux femmes et aux filles et un frein à tous nos efforts pour construire un monde meilleur, a affirmé Guterres. Nous devons accélérer radicalement le rythme du changement. C'était « L'ONU lance un plan pour renforcer l'autonomisation des femmes ». Un texte de la rédaction paru le 9 mars 2024 dans Loop Haïti.
54 visites aux urgences par jour liées à l'alcool. Un texte de Florence Morin-Martel paru le 9 août 2024 dans Le Devoir. En moyenne, au Québec, on a recensé 54 consultations aux urgences par jour avec un diagnostic principal lié à l'alcool en 2023, selon des chiffres obtenus par Le Devoir. Bien qu'on en parle moins, c'est presque deux fois plus que les visites liées aux drogues. Le fait de boire de l'alcool est moins stigmatisé et plus banalisé que la prise de drogue dans la société, avance le docteur Guillaume Lacombe, vice-président de l'Association des spécialistes en médecine d'urgence du Québec. En 2023-2024, le nombre de consultations aux urgences avec un diagnostic principal lié à l'alcool s'élevait à 19 815, selon des données transmises par le ministère de la Santé et des Services sociaux, MSSS. Plus de la moitié de ces visites ont été effectuées par des gens âgés de 30 à 54 ans. Si les chiffres des années pandémiques sont à prendre avec précaution, car la COVID-19 a pu avoir une incidence sur le nombre de consultations à l'urgence, ceux de l'année 2019-2020, précédant la crise sanitaire, sont relativement stables, 21 063 par rapport à 2023-2024. Le nombre de ces consultations semble quand même élevé, affirme le docteur Lacombe, qui est urgentologue au Centre hospitalier régional de Lanaudière. Une partie importante de ces visites sont potentiellement évitables, soulève celui qui est aussi toxicologue. Quant aux visites aux urgences attribuables aux stupéfiants, on en comptait 10 025 en 2023-2024, selon les données fournies par le ministère. Celles-ci ont cependant légèrement augmenté, car on en recensait 9 747 en 2019-2020. Des drogues puissantes et ou contaminées à d'autres substances en circulation seraient notamment en cause, affirme la docteure Marie-Ève Goyer, chef médical des services en itinérance et dépendance au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux, CIUS, du centre sud de l'île de Montréal. Plusieurs rapports nous montrent qu'on retrouve du fentanyl dans la cocaïne. Donc, même quelqu'un qui ne pense pas consommer d'opioïdes peut en consommer à son insu. Le MSSS souligne qu'il est cependant ardu de quantifier avec justesse l'écart entre les visites aux urgences attribuables à l'alcool et celles liées aux drogues. Dans plusieurs cas, une personne peut se présenter à l'hôpital en ayant à la fois consommé de l'alcool et des drogues. Il peut donc être difficile pour le personnel soignant de déterminer avec précision à quelle substance exacte est liée l'état du patient. Plus accessible, tout de même risqué. Selon le docteur Lacombe, la différence entre le nombre de visites liées à l'alcool et celles liées aux drogues pourrait notamment s'expliquer par le fait que les boissons alcoolisées sont plus accessibles que les stupéfiants. La consommation d'alcool peut néanmoins entraîner des conséquences graves, poursuit-il. À court terme, il peut y avoir des intoxications, mais aussi des chutes dans les escaliers, par exemple. Parfois, ça peut aller jusqu'à des comas éthyliques. Les chiffres fournis par le ministère en ce qui concerne ce type de consultation aux urgences ne seraient que la pointe de l'iceberg, selon le docteur Guillaume Lacombe. D'après lui, les gens sont beaucoup plus nombreux à se présenter à l'hôpital pour une raison liée à ces substances. Le toxicologue donne l'exemple d'un patient qui se blesserait avec du vin parce qu'il est en état d'ébriété. Il est possible qu'il ne mentionne pas avoir bu avant de se présenter à l'hôpital. Il va se retrouver dans la salle d'attente 3, 4 ou 5 heures et, le temps que je le vois, il va avoir dégrisé, illustre-t-il. Les données du ministère concernant les stupéfiants ne comprennent pas non plus les intoxications traitées directement dans les sites de consommation supervisés, soulève Martin Pagé, directeur général de l'organisme montréalais Dopamine. Plus de prévention. Selon le site web de l'Institut national de santé publique du Québec, la consommation québécoise d'alcool par habitant est restée relativement stable depuis 2013-2014. Elle est cependant demeurée supérieure à la moyenne canadienne durant les 16 dernières années. Davantage de prévention est nécessaire afin d'assurer une meilleure connaissance des risques et réduire les visites aux urgences liées à l'alcool, estime Kim Brière-Charret, directrice de projet sur les substances psychoactives à l'Association pour la santé publique du Québec. La banalisation de l'alcool est une question importante, souligne Mme Brière-Charret. Selon elle, l'un des problèmes est qu'en raison de son caractère légal, l'alcool est rarement perçu comme une substance psychoactive. Pourtant, il l'est bel et bien, affirme-t-elle. Sans non plus diaboliser l'alcool, on doit quand même revoir l'information qui est accessible et mise en avant pour être certain, finalement, que les personnes en consomment en ayant conscience de ses effets sur la santé. Il existe une incohérence dans la façon dont on traite l'alcool et les drogues dans la société, relève pour sa part Jean-Sébastien Fallu, professeur agrégé à l'École de psychoéducation de l'Université de Montréal. D'un côté, on banalise, voire glorifie la consommation d'alcool, ce qui fait que les gens consomment plus ou ne font peut-être pas assez attention, et de l'autre côté, on stigmatise ceux qui prennent des drogues. Les différentes substances ne sont pas nécessairement pareilles et ne peuvent pas être traitées de façon identique dans les politiques publiques. Il faut cependant un encadrement et une vision beaucoup plus cohérente entre les substances, ajoute celui qui est spécialisé en dépendance. Joint par Le Devoir, le cabinet du ministre de la Santé, Christian Dubé, souligne que le MSSS poursuit des campagnes d'information et de sensibilisation sur les risques de la consommation d'alcool visant les jeunes. La consommation d'alcool, à l'instar de différents autres facteurs de risque, fait partie des réflexions en cours pour améliorer la prévention au Québec, écrit Julie Drolette, conseillère aux communications du MSSS. C'était 54 visites aux urgences par jour liées à l'alcool, un texte de Florence Morin-Martel, paru le 9 août 2024 dans Le Devoir.
Le nouveau Queer Cinéma Club de Montréal. Une entrevue réalisée par Samuel Larochelle, parue le 22 juin 2024 dans le magazine Fugue. Le cinéma moderne était plein à craquer lors des premières séances du Queer Cinéma Club de Montréal les 15 mai et 20 juin derniers, alors qu'étaient projetés The Hours et Cruising. Tous les mois, l'organisateur Jérémy Romain, soutenu par Imagination, présentera des classiques du cinéma LGBTQ+, des œuvres grand public et des films indépendants. Comment as-tu eu l'idée d'organiser cette soirée mensuelle? Jérémy Romain. Ça fait longtemps que je veux organiser un événement récurrent. J'ai participé au début des soirées Mec plus Ultra. J'étais DJ et je trouvais ça vraiment cool. Ensuite, je voulais lancer ma propre soirée, mais ça n'a jamais à donner. Un jour, j'ai arrêté de boire de l'alcool. Alors, je ne participais plus au nightlife. J'ai alors pensé faire quelque chose en lien avec ma passion pour le cinéma. Avant Noël, j'ai discuté avec un ami qui a lancé le Queer Cinéma Club de Toronto il y a 2 ans. Je lui ai expliqué que je voulais reproduire le concept, mais changer de nom. Qu'a-t-il répondu? Qu'il souhaitait depuis longtemps faire une filiale à Montréal et à Vancouver. Il suggérait que je fasse ma propre affaire, sans participer à la programmation, et de conserver le nom si j'en avais envie. J'ai alors contacté le Cinéma Moderne, un petit cinéma sur Saint-Laurent que j'aime beaucoup. Leur programmation était déjà très diverse. Ils ont trouvé ça très cool. Je leur ai montré une programmation potentielle et on est parti de là. À quoi ressemblent les soirées? Idéalement, je veux accompagner la projection du film avec une introduction ou une période de questions-réponses avec des artistes. Mais je n'ai pas réussi à avoir d'extra pour la première. J'ai harcelé le manager de Nicole Kidman pour avoir une vidéo d'introduction de 3 minutes dans laquelle elle souhaiterait la bienvenue à la projection et expliquerait ce que veut dire le film pour elle, comme c'est souvent le cas à Toronto. Un jour, on pourrait aussi ajouter une performance durant la soirée ou la projection d'un court-métrage dont le thème est lié au film. Ça t'a fait quoi de sentir l'engouement pour la soirée? La première séance a été sold out en moins de 24 heures et la deuxième s'est remplie assez vite aussi. Les gens me contactaient en DM sur Instagram pour me remercier ou pour s'impliquer. Plein de gens me disaient qu'on avait besoin de ça. Je ne m'attendais pas du tout à recevoir cette belle énergie. Dans la vie, je suis quelqu'un d'un peu négatif et pas sûr de moi-même. Donc, chaque fois que je fais quelque chose qui fonctionne, ça me surprend un peu. Envisages-tu déjà d'organiser ta soirée dans une plus grande salle? Je suis super reconnaissant que le cinéma moderne ait embarqué. La direction ne charge pas pour louer la salle. C'est vraiment une collaboration. Je me sentirais mal d'aller ailleurs. En ce moment, on fait deux séances le même soir. Peut-être qu'on pourrait faire plus de séances. Comment choisis-tu les films? Je veux montrer mes coups de cœur parmi les classiques de films LGBTQ+, ou des classiques aimés par la communauté, sans qu'il y ait toujours un personnage queer. J'ai commencé avec de gros titres pour que les gens embarquent rapidement, mais vers la fin de l'année, je veux présenter une œuvre plus obscure des années 1960. Je vais également choisir un film queer thématique pour Halloween, et montrer des films qui ont été des premières, comme la première fois qu'on a vu un personnage lesbien au cinéma. Tu sembles vouloir créer plus qu'une simple soirée de projection. Oui, en plus de permettre aux gens de faire des découvertes cinématographiques, je veux que les gens se rencontrent, parlent de cinéma, deviennent amis et que, si les gens reviennent mois après mois, tout le monde dans la salle se connaisse par son nom. Quels sont tes plus grands coups de cœur queer de tous les temps? Crazy, 2005, How to Survive a Plague, 2012, Paris is Burning, 1990, The Rocky Horror Picture Show, 1975, Victim, 1961, sans oublier 120 battements par minute, 2017, And the Band Played On, 1993, Dog Day Afternoon, 1975, The Hours, 2002, Morris, 1987. C'était le nouveau Queer Cinéma Club de Montréal. Une entrevue réalisée par Samuel Larochelle, parue le 22 juin 2024 dans le magazine Fugue.